Donc, mais on est bien, non? Oui. Bon. Rebonjour, j'espère, pour la plupart qui étaient déjà là ce matin. Et après avoir accueilli Karina Pacheco, on a maintenant Grecia Cáceres. Elle aussi parle français très très bien. Et on va donc parler de ses livres, on va parler de sa vie. Elle est, si je te dis que tu es afrancesada, mais très encore limeña et surtout péruvienne, tu serais d'accord?
Je serais tout à fait d'accord. Bon. Je me reconnais.
Ça commence bien. Alors, tu es partie de Lima, du Pérou, il y a combien, 20 ans? Plus?
Un petit peu plus, oui.
Et tu es devenue française?
En fait, je pense que j'étais déjà un peu française parce que j'avais fait l'école française à Lima. Donc j'ai appris le français, j'avais 3-4 ans. Et surtout, j'ai grandi aussi dans la littérature française qui a été ma première source, disons, d'inspiration. Car à l'école, il y avait une très belle bibliothèque. Donc ça a été ma première immersion, disons, à la littérature. Mais après, j'ai fait mes études universitaires à l'Universidad Católica de Lima. Donc, cette étape universitaire était très, très fructueuse pour moi parce que c'était à ce moment-là que j'ai plongé dans la littérature en espagnol et surtout la tradition, la très belle tradition littéraire péruvienne. Mais afrancesada, je suis parce que c'est vrai que comme je vis et je parle, je suis immergée dans le français. Ça se voit dans mon écriture. Et jusqu'à un certain moment, j'y luttais, j'essayais de corriger les tournures, surtout la structure des phrases, certains mots. À partir d'un moment, je me suis dit, ça fait partie de moi, de mon style, de ma manière d'écrire. Et je fais attention, bien sûr, mais c'est vraiment... Et si je peux être afrancesada à la manière du 18e, je suis ravie, quoi.
Et tu pourrais être tentée d'écrire en français un jour?
Oui, c'est une question qu'on me pose souvent, mais ça ne connecte pas. C'est marrant, l'espagnol connecte avec la partie de mon cerveau qui est celle que j'utilise pour l'écriture. Et le français, c'est une langue qui m'organise beaucoup, très bien. J'aime beaucoup écrire des articles, même parler en français organise ma pensée. Parce que c'est une langue, on ne se rend pas compte qu'on est français, mais c'est une langue très... c'est une langue très rationnelle quelque part et elle me sert à m'organiser ma pensée, mais la partie affective, la partie qui puise dans quelque chose de très presque pré-linguistique, c'est pour moi c'est le castillan, si on peut dire ça, le castillan ou l'espagnol de Lima.
Mais tu n'as pas perdu pour autant le goût du langage et la mémoire du langage? Lorsqu'on te lit, vous entendez pas? Oui. Lorsqu'on te lit, on a vraiment l'impression que c'est un langage. Bon, on imagine péruvien parce qu'on ne connaît pas tout, et cette présence du français dont tu viens de parler n'est pas choquante, non, certainement pas choquante, mais n'est pas sensible, n'est pas visible. Est-ce que ça ne serait pas à cause de cette façon que tu as d'écrire est un peu particulière? Alors, est-ce que ce n'est pas à cause de la poésie qui a d'abord été ton... Si ce matin, Karine a commencé par l'anthropologie, toi, tu as commencé par la poésie.
Oui, tout à fait.
Tu continues, d'ailleurs.
Oui, la poésie, je pense que c'est... La poésie, c'est la matrice un peu de mon travail et même de mon romancière. Moi, mon rêve, quand j'étais enfant, c'était d'être poète. Donc, c'était ma grande ambition. Et j'aime beaucoup la poésie. Et c'est vrai que je lis beaucoup de poésie. Je dirais que je lis plus la poésie que de la fiction, que du roman, si on fait un peu si on regarde de près. Mais bon, je lis beaucoup aussi de fiction, mais... La poésie est une source pour moi et la poésie péruvienne est vraiment extraordinaire. On a des poètes immenses et qui sont là avec nous pour nous accompagner. Et du coup, pour moi, le langage même dans le roman, je suis très exigeante, je veux dire, avec le langage, avec J'expérimente beaucoup. Je fais très attention aussi au rythme, le rythme de la langue. Et dans mes romans, il y a souvent des parties un peu qui partent un peu dans le côté plus de l'introspection poétique. Et bon, je continue les deux choses, les deux écritures, l'écriture de la poésie et l'écriture du roman en parallèle. Donc, je publie régulièrement aussi des poèmes, mais ça peut faire aussi des courts-circuits. Ça peut être aussi pas évident, quoi. Je trouve. Parfois, j'ai du mal avec ces deux voix qui parfois ne sont pas si harmonieuses entre elles. Mais bon, la poésie, c'est vital pour moi.
Donc, tu continues à écrire de la poésie.
Donc, je continue à écrire, oui.
Tu continues à écrire de la poésie. Quand tu as écrit tes romans, alors, en fait, tu n'as pas été émigré, tu as été expatrié plutôt. Tu n'es pas parti parce qu'il fallait que tu t'en ailles. Si je ne me trompe pas, tu as décidé d'aller à Paris, pas comme on y allait avant d'ailleurs, hein, puisque maintenant la bohème, Cortázar, Ribeiro, tout ça c'est fini. Mais tu es allé pour faire des études en fait.
Je suis venue en France et justement à Paris pour faire un doctorat. Et j'avais fini mes études universitaires. Mais je portais ça en moi, je pense, ce projet depuis l'école, parce que c'est vrai qu'à l'école, on nous parlait beaucoup de la France et on nous faisait rêver beaucoup de la France. Et on avait l'impression qu'on ne pouvait que écrire et que penser en France. Donc c'était un peu une espèce de chose qu'on avait depuis enfant. Et puis chez moi aussi, mes parents, ils étaient très admiratifs de la culture française. Et c'est vrai que nous, on a eu la chance d'avoir tous ces écrivains latino-américains qui étaient en pleine action quand j'étais étudiante et avant, qui avaient tous passé par Paris, justement comme Ribeiro, comme Cortázar, comme Vargas Llosa, comme García Márquez, et même avant Alejo Carpentier. Enfin, on a toute une panoplie de grands auteurs qui étaient passés par Paris. Alfredo Bryce aussi, qui nous faisait rêver avec son fauteuil Voltaire à Paris. Qui est à Montpellier aussi. Mais pour moi, je pensais qu'à Paris. Moi, c'était obnubilé par Paris. Donc, on avait toute cette espèce de pléiade d'auteurs qui nous faisaient penser qu'en fait, qui nous faisaient rêver déjà avec leur mode de vie d'écrivain. Et je pense que ça, c'est important parce que c'était à ce moment-là où c'était vraiment le summum de ce modèle d'écrivain qui déjà n'est plus le même et qui nous faisait rêver sur Paris. Et en même temps, c'est vrai que l'histoire du Pérou ne m'est pas indifférente. C'est vrai que c'était les années 90, c'était des années très difficiles. Et moi, j'avais vécu pratiquement toute ma jeunesse sous la menace de la guerre entre le terrorisme, la guerre de sentiers lumineux, ce qu'on appelait la guerre interne. Mais bon, il y a pas mal de polémiques sur comment nommer cette guerre, si c'était une guerre civile, si c'était une révolution, enfin bon. Et on ne voyait pas trop, pour quelqu'un qui finissait ses études littéraires, quoi faire, non ? Et j'avais la langue, donc je suis partie, mais c'est vrai que je ne me considère pas comme quelqu'un qui a d'expatrié ou de persécuté. Donc c'était un choix. Et c'était dur, parce que c'est vrai que moi, je pensais connaître la France par les livres et par ce que j'avais appris à l'école, mais en fait, je ne connaissais pas du tout. En arrivant, j'ai eu le même choc culturel, un petit amoindri parce que je parlais français, mais c'est un autre monde, c'est deux mondes très différents.
Et tu as écrit tes romans en France ?
C'est vrai, tout à fait. Jusqu'à mon départ à Paris, j'écrivais que de la poésie. Et je revendiquais ça et je me disais non, moi je vais jamais écrire des romans, que la poésie. C'était une sorte de chose de jeune aussi, non, de se donner une espèce de côté très romantique, d'être que poète, d'avoir un regard de poète sur le monde. C'est ça, c'est plus ça en fait. Et je pense que j'y ai pas renoncé, même si j'écris des romans, je garde mon regard de poète sur le monde.
D'ailleurs, tout à l'heure, si tu es d'accord, tu nous liras, alors évidemment en espagnol, parce qu'on n'a pas de traduction, mais la poésie n'a pas besoin de traduction. tu nous liras un poème. Tu m'avais promis, tu tiens toujours ta promesse. Bon, ça va. Alors, si tu veux, on va parler du premier roman. On ne peut pas parler de tous parce qu'ils sont nombreux, mais on peut parler de tous, mais très rapidement des autres. Et puis, on peut parler plus longtemps du premier et du dernier. Alors, le premier, je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais il m'a semblé que c'était un peu autobiographique. Tout au moins, si c'est non autobiographique, il y avait des parties de toi, de ton expérience, de ton vivance qui t'a permis de créer une histoire.
Oui, parce que je pense pour mon premier roman, j'avais beaucoup de mal parce que je n'y croyais pas trop à la possibilité d'écrire un roman. Et donc j'ai utilisé des matériaux pour m'aider. Et j'ai travaillé sur des épisodes de l'histoire de ma famille paternelle dans un petit village qui s'appelle Recuay, dans le centre du Pérou, à côté de Huaraz, qui est peut-être plus connu, je ne sais pas si quelqu'un connaît. Et c'est un peu le cœur aussi c'est pas si loin de la côte, mais c'est entre deux, la cordillère, la blanche et la noire. Et moi, j'avais entendu parler d'incidents, de choses qui se passent toujours dans les petites villes, des crimes, des histoires d'amour. Donc j'ai un peu... Et je travaillais aussi avec des photos de famille, parce qu'à ce moment-là, j'avais regardé des photos avant de partir. Et je pense que pour moi, écrire ce premier roman est une manière de me relier un peu, de raconter des histoires sur le Pérou de manière plus romanesque. Ça me liait peut-être d'une manière plus forte au Pérou que la poésie, qui a tendance à être plus universelle. Et donc j'ai réuni tout ce document, et puis après j'ai écrit ce roman qui se passe en 1912, donc à Recuay, et il a été traduit en français, La Tente, sorti en 2001 en français, et ça a été pour moi une expérience très gratifiante. J'ai beaucoup aimé écrire ce roman, et en plus j'étais enceinte à ce moment-là, donc c'était un peu une espèce de moment un peu de créativité extrême. Mais je me suis dit peut-être que je vais écrire un seul roman et après ça suivra pas. C'est le deuxième roman qui m'a le plus angoissée.
D'autant qu'il a été traduit en français fin d'après-midi.
Donc non, ça... le deuxième c'est Violetta.
Non, le premier, il a été traduit, c'est fin d'après-midi.
Ah non, c'est L'Attente.
C'est L'Attente. Ah oui, L'Attente, d'accord.
Qui est un roman un peu de la campagne. Et en revanche, c'est vrai que Fin d'après-midi, ça a été un roman largement autobiographique, parce que c'est là où je parle de ma génération, de cette génération de jeunes qui ont grandi, qui ont passé, disons, le collège, le lycée et le début des études universitaires sous l'emprise de la guerre et de Sentier Lumineux. Oui. Et la plupart, ils veulent être écrivains. Donc c'est vrai que c'est un roman d'apprentissage. Et la particularité de ce roman, c'est qu'il a été que traduit. Il n'a pas été publié en espagnol. Donc c'est un roman que je trouve un peu dangereux, parce que je parle beaucoup de l'époque, comment moi j'ai vécu l'époque du Sentier Lumineux, et je parle ouvertement de plusieurs choses, mais comme il n'a pas été traduit, il n'a pas été publié en langue originale au Pérou, ça c'est pas connu. Mais il a été traduit en français, donc c'est un peu bizarre.
La confusion.
Ouais, il y a une confusion bizarre, oui. Ouais.
Donc ça c'est tu nous as parlé du premier roman. Si tu en parles très vite, on peut parler des autres. Alors tu peux parler du second. Le deuxième,
j'en parle parce que c'est celui que j'ai le mieux vendu en France. Alors.
Ah oui, bien sûr.
Qui s'appelle Violetta, et c'est un roman qui se passe dans les années 60 à Lima. Et c'est l'histoire d'une secrétaire. Justement, on parlait de la machine à écrire et de la fascination pour le personnage des secrétaires dans les années 60, où c'était une espèce d'icône de la modernité. Et c'était la femme qui allait travailler, qui sortait de la maison, qui était un peu autonome, on va dire, début d'une autonomie. Et en plus, ce roman des années 60 se passe pendant ce gouvernement une espèce de parenthèse enchantée du gouvernement, du premier gouvernement de Belaounde, qui était après des années de gouvernements militaires qui se succèdent plus ou moins. Donc c'était une espèce d'époque un peu optimiste, où on pensait qu'on était desarrollistes. On pensait que si on remplaçait les exportations, on allait se développer et puis voilà, on allait arriver au paradis des pays développés, etc. Et ce roman se passe à cette époque-là et c'est l'histoire d'amour entre le chef de cette secrétaire et une jeune fille du quartier. Et c'est un roman qui parle beaucoup aussi du racisme au Pérou, du centre de Lima. Et surtout, pour moi, c'était très important parce que c'était le deuxième roman. Et en plus, il y a beaucoup de dialogues. Les voix sont très reconnaissables des personnages. On les entend parler, on dit machin dit, etc. Tandis que pour mon premier roman, j'avais évité tout dialogue parce que je ne me sentais pas techniquement assez forte pour faire des dialogues qui ne soient pas empruntés. Je ne me sentais pas assez avec assez d'expérience en tant que romancière, donc j'avais dissimulé ça dans un roman beaucoup plus narratif, descriptif, où on rentrait dans la tête des personnages, et puis Violetta, c'est l'explosion des dialogues.
Alors ça, je suis tout à fait d'accord, je trouve ça très vrai, parce qu'il y a un roman qui est le collectionniste, hein, où on croit qu'il y a un sujet... Pas. Il y a un sujet principal qui est le trafic d'œuvres d'art, même plus que d'œuvres d'art. Et en réalité, la raison réelle du roman, c'est pas ça. La raison réelle, c'est une histoire d'amour, même, hein, on peut dire. Des personnages que tu as. J'ai lu comme ça, je sais pas si. Qui, des espèces de travail d'entomologiste, je dirais, sur la personnalité, pas la psychologie, mais surtout la personnalité. La psychologie, c'est au lecteur de le décider, mais ça, ton travail de romancière, ça a été vraiment de faire entrer le lecteur dans une histoire avec un prétexte.
Oui, c'est vrai. Moi, j'aime pas trop le psychologisme et j'aime bien les personnages. Et c'est vrai que La Collection, c'est un roman que j'aime bien parce que c'est le seul où j'ai un personnage masculin comme personnage principal, qui est un collectionneur d'art précolombien. Et c'est vrai que c'est un prétexte qui me sert à réfléchir sur la relation des Péruviens avec le patrimoine, leur patrimoine. Et puis j'adore les histoires d'amour. Moi, s'il n'y a pas d'histoire d'amour dans un livre, dans un film, je sais pas, je m'ennuie. J'adore les histoires d'amour. Et j'en ai toujours dans mes romans, parce que je trouve que la relation amoureuse... Et tomber amoureux et essayer de se faire comprendre par la personne aimée, c'est presque le plus important dans nos vies, dans nos vies humaines. C'est presque le plus transcendant parce que c'est là où on va au-delà de ses capacités de communiquer, de sortir son monde intérieur et le montrer à quelqu'un. Et ça, c'est très douloureux et difficile. Mais chacun a fait cette expérience à un moment donné et ça nous rapproche parce qu'on a tous vécu ça. Mais dans La Collection, ce qui m'inquiétait beaucoup et qui m'inquiète beaucoup, c'est que les Péruviens, ils ont un patrimoine trop pesant, peut-être. C'est un pays qui n'a pas les moyens de défendre son patrimoine. Et le pire, c'est que souvent, les gens, ils n'ont pas conscience qu'ils ont un patrimoine à défendre. Et maintenant, on voit beaucoup ça à Lima, parce qu'on détruit énormément de bâtiments, même du XXe siècle, de grands architectes modernistes qui a eu, ou même plus anciens. Et ça se fait dans une indifférence générale. Il n'y a que ce qui est précolombien et un peu plus ce qui est colonial qui nous semble être important. Mais... Donc, le rapport avec le patrimoine, c'est le rapport avec l'histoire, avec ce qu'on est. Et moi, en France, ça m'a beaucoup éduqué le regard et la tête. Parce que c'est vrai qu'en France, c'est un pays qui presque vénère son patrimoine. Donc, ça m'a armée pour regarder ce qui se passe au Pérou avec beaucoup de préoccupations. Et ce que fait le collectionniste, justement, dans mon personnage, c'est accaparer les œuvres de manière illégale, parce qu'il sent que c'est qu'elles seraient en danger s'il ne le fait pas. Et c'est ça son prétexte de son comportement. Et comme avec les objets, il est avec les personnes. Donc il collectionne aussi, il a un rapport avec les humains aussi, comme avec les objets, comme avec cette femme dont il est amoureux, qu'il prend en photo avec les bijoux. Et puis, bon, comme tu dis, c'est un prétexte aussi, c'est dans la Lima des années 50. Donc c'est encore une autre Lima. À chaque fois, c'est une autre Lima. Et on parle de l'époque encore des grands collectionneurs, archéologues, des gens riches qui faisaient des fouilles dans leur terre, chez eux, dans leur grand espace qu'ils possédaient. Et avec ça, je rejoins un peu aussi Karina ce matin, sur l'importance de ça.
D'ailleurs, si je me souviens, le livre, tu as trois envois, un poème de Blanca Varela et une loi de la Constitution du Pérou protégeant, mais qui est de 1929. Et qui protège justement de façon assez drastique
le patrimoine. Oui, la loi est assez bien faite. Et je m'étais renseignée avec un spécialiste en patrimoine et je l'avais mis en exergue justement pour rappeler qu'on avait ça. Et puis Chabuca Granda, c'est une chanteuse. Chabuca Granda, non ? Chabuca Granda, qui est une grande artiste péruvienne et une grande. Parolière, on dit. Ses paroles sont d'une qualité. Bon, elle est aussi une écrivaine pour moi. Et elle, c'est par la musique, elle a recréé ce rêve sur la Lima qui n'est plus, la Lima de l'époque coloniale. Et je pense qu'elle a marqué. C'est elle qui a fabriqué l'imaginaire qu'on a aujourd'hui et qu'on manipule aujourd'hui sur la Lima d'avant. Et on est toujours sur la Lima d'avant, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'elle a été dans le présent à Lima, quoi. Parce qu'on n'a jamais été à Lima vraiment. On a toujours rêvé de l'Espagne, de Madrid, de Paris, d'ailleurs. Mais être à Lima aujourd'hui et voir qui on est, on a beaucoup de mal, je trouve.
Et c'est possible. Ça serait possible. Non, ça serait possible.
Est-ce que c'est possible, même pour tout le monde? C'est pas facile. Non, c'est vraiment difficile parce qu'on est tous dans une continuité. On a tous hérité de notre culture, de nos parents, de notre éducation, des images de ce qu'on est et de notre ville. Et il faut faire un effort de retrait pour peut-être regarder à nouveau ce qu'on est et où on en est. À ce moment-là. Et on a en général besoin d'un événement un peu traumatisant pour voir les choses. Bon, on peut dire ça après la pandémie aussi. On se regarde différemment. Mais la distance, pour moi, la distance de vivre à Paris et de parler du Pérou, pour moi, était très. Je crois que ça m'a permis d'écrire des romans. Moi, j'aurais pas pu. Je suis pratiquement sûre que je n'aurais pas écrit des romans si j'étais restée à Lima.
Et retourner à Lima pour cette mission, ça serait possible ? Ça ferait partie de la possibilité ? Pas que toi. Vous êtes nombreuses à vivre un peu partout. Hein, et plus à Paris, d'ailleurs.
Revenir vivre à
Lima ? Oui.
C'est mon espèce de rêve que je caresse tout le temps. Je me dis un jour, je reviendrai. Et je suis toujours en train de revenir, comme je disais, je ne sais pas qui ce matin, parce que ou je reviens à Paris ou je reviens à Lima, mais on ne sait pas. C'est une espèce de boucle, je ne sais plus où je reviens. C'est tout le temps un retour. Et comme j'ai une tendance un peu nostalgique, j'essaie de lutter un peu contre ça. Mais je ne sais pas si je pourrais habiter à Lima. Il y a des écrivains qui ont essayé de revenir et qui sont repartis. D'autres qui... Bryce, je pense qu'Alfredo Bryce, il a fait plusieurs tentatives, comme on dit, des tentatives de suicide, mais des tentatives de retour à Lima. Vargas Llosa aussi, il a vécu à Lima. Pratiquement tous les écrivains ont vécu à l'étranger, ils sont revenus. Blanca Varela aussi, elle a eu un retour à Lima retentissant qui a donné lieu à un livre qui s'appelle Luz de Día, qui est magnifique. J'adore, je pense que c'était vraiment, c'est son grand livre de retour au pays natal, comme on dit en France. Et Eielson, il n'est jamais revenu. Et il vivait dans son île. C'est pas la Sicile, c'est la Sardaigne. Mais moi, je dis toujours, il y a beaucoup d'écrivains qui ont vécu aussi en sanatorium aussi. Beaucoup d'écrivains, ils n'ont pas été à l'étranger, mais ils ont vécu comme dans une espèce de citadelle fermée, comme ça. Bon, on a le grand exemple aussi de Vallejo, qui n'est jamais revenu. Mais est-ce qu'il voulait revenir? Est-ce qu'il aurait pu, s'il n'était pas mort? Je ne sais pas, peut-être qu'il ne serait pas revenu.
Et puis, ce n'est pas la même période.
Et c'est pas la même. Bon, lui, il a eu quand même une époque difficile en Europe, mais il a été très solidaire des Espagnols, très solidaire des Européens. Et c'est le monde. C'est vraiment dans ce sens que je vois les choses. C'est pas. On interagit, c'est-à-dire. Moi, je m'implique dans la vie de la France. Par exemple. Bon, j'ai 4 enfants, donc. Ce qui sont ma moitié français. Donc
ils sont nés comme tes romans en France.
Et ils sont nés comme dans mon roman en France aussi. Donc je m'implique vraiment dans la vie française et ça me touche énormément. Là. Dans ce sens, je suis aussi française que péruvienne. Ça me fait mal et ça me fait plaisir. Voilà.
Le dernier roman ?
Aïe, aïe, aïe. Bon, le dernier roman, c'est toujours le petit chéri, non ? Parce qu'on est un peu. Il est encore dans mon ventre et dehors. C'est un roman qui m'a coûté beaucoup de temps parce que c'est un projet assez ambitieux. Parce que je ne l'ai pas dit, parce que comme on est invité comme péruvienne, mais ma mère est chilienne. Et ça, c'est un secret de Polichinelle. Non, ma mère est chilienne et ma mère, elle a migré avec ses parents. Sur le bateau, comme on imagine les immigrés du Chili vers le Pérou. Et donc j'avais toute une pan de moi liée au Chili, qui a des relations compliquées avec le Pérou, pour des histoires de guerre au fin 19e. Et je voulais explorer un peu l'histoire du Chili, parce que j'aime beaucoup me placer dans des moments. Donc j'ai choisi les années 30 au Chili, mais dans le nord du Chili, donc ce qui est le sud du Pérou et qui était un territoire qui a été pris à la Bolivie et au Pérou. Donc c'est un territoire un peu gris dans le sens où c'est le Chili, mais on est encore proche à l'époque de la guerre du Pacifique. Et on sent l'effort de l'État chilien de s'implanter. Et en même temps, c'est un territoire qui est exploité par les puissances étrangères par rapport aux minerais. Et donc, j'ai essayé de faire une histoire toujours très personnelle, intimiste, comme vous dites, d'entomologiste, mais dans ce cadre qui me pousse à réfléchir aussi aux relations qu'on a à nos pays avec les pays qui nous prennent toute cette richesse naturelle et comment ça se passe. Parce qu'en fait, ma mère est née dans une ville qui s'appelle Maria Luisa, Marie-Louise. Et moi, je trouvais ça très bizarre. Je me suis dit, pourquoi ma mère est née dans une ville qui a un nom aussi bizarre? Et je me suis renseignée tardivement, donc il y a quelques années. Et en fait, c'est un espèce de campement qui est devenu une ville nouvelle, qui a été fondée par les Anglais pour les gens qui travaillaient pour eux dans l'exploitation des minerais, et qui était comme une ville-jardin idéale, avec piscine, bibliothèque, vraiment très attirante, mais qui était aussi une prison dorée, quelque part, pour les gens qui y habitaient. Il y avait une monnaie, enfin, c'était un truc hallucinant. Et ça s'appelait Maria Luisa, parce que la femme du type s'appelait Mary Louise, et il n'a pas eu meilleure idée que de dire, bon, ben, on va l'appeler comme ma femme. Donc, le comble pour une ville... comme une reine qui appelle. Donc tout ça m'avait fait beaucoup d'impression et j'ai développé cette histoire qui se passe au Chili. Et donc pour l'instant, le manuscrit est fini, mais je cherche un éditeur qui voudra de ce roman, qui est un peu particulier parce qu'on confond souvent la littérature péruvienne avec la littérature à thème péruvien. Il faut faire la distinction, parce que ce n'est pas parce qu'un livre parle du Japon ou de la France ou je ne sais pas quoi que ce n'est pas de la littérature péruvienne. Mais pour les éditeurs, souvent, ils ont l'impression que les lecteurs ne vont pas comprendre. Et moi, ça me paraît évident que c'est un roman péruvien sur le Chili.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, et ça, c'est un grave problème que nous avons, en particulier en France, où s'il n'y a pas de l'exotisme, s'il n'y a pas des charros avec un auteur mexicain, des mayas avec un auteur guatémaltèque, les éditeurs ne veulent rien savoir. Tu as l'exemple de ta collègue, jeune, non, vous n'êtes pas du même âge, Claudia Julio Adonos, qui vit en Norvège. Et qui est dans ce recueil, et qui vit en Norvège depuis 10 ans, je crois, après avoir été veuve très jeune, et qui raconte des histoires tout à fait universelles, mais on sent que c'est une limagne. Hein.
Ouais, elle a plus de mal que quelqu'un qui écrirait sur ce qu'on appelle le Pérou profond, hein, au Pérou. Et c'est vrai, moi j'aime beaucoup Claudia, c'est vrai, j'aime beaucoup. Et elle est allée encore plus loin que moi. Donc, elle est dans un pays du Nordique, je ne sais même pas où c'est. Et bon, les écrivains, ils prennent toujours leur liberté malgré tout. Ils vont écrire ce qu'ils veulent écrire et personne ne va les empêcher. Après, il faut aller chercher le lecteur, avoir des éditeurs qui te soutiennent. Et le tour sera joué, j'espère.
Ouais, sachant qu'il y a de plus en plus maintenant chez les éditeurs des gens qui disent ce qu'il faut écrire, comment l'écrire, éventuellement l'effacer. Heureusement qu'il y a des écrivains encore comme vous qui ne se laissent pas faire, et des éditeurs comme d'autres qui...
Les éditeurs, moi j'attends beaucoup d'eux, parce que moi je crois vraiment que l'éditeur doit faire un travail d'édition sur les textes. Souvent, l'écrivain tout seul qui produit un produit impeccable, fini. Moi, si j'ai un éditeur qui me dit, qui a bien lu mon travail, qui me fait des commentaires, qui me suggère des choses, moi, je suis ravie. Je trouve que ça fait partie. Un éditeur n'est pas un vendeur de livres ou un imprimeur. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui doit s'impliquer dans l'œuvre de l'écrivain. Et ça, on trouve très peu. Donc, ce n'est pas qu'une question d'écrire sous la dictée du marché. Mmh. Mais il faut que l'éditeur soit assez présent aussi, un peu à l'ancienne, peut-être.
Ah oui, non, ça, c'est très noble. Mais je ne parlais pas de cette activité-là de l'éditeur. Je parle de l'activité de l'éditeur qui voit le marché avant de voir l'œuvre. Non, tout à fait. D'ailleurs, c'est un nom aux États-Unis. Il y a une fonction maintenant qui existe. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, je ne veux pas le savoir d'ailleurs, qui lisent et qui corrigent, qui disent « Ah non, ça, c'est pas enfin, ce qu'on appelle politiquement correct ou socialement correct. »
Ça, c'est très dangereux, en effet.
Bah, oui, tout à fait. Bon, Alia Ilios. On va revenir sur la poésie. Tu parlais tout à l'heure de Blanca Varela. La poésie, mais aussi, comme tu as parlé de LSN, il y a l'histoire des arts plastiques très importantes en Amérique latine et très peu connues en Europe. Quand on voit par exemple un grand peintre, un maître comme Francisco Toledo au Mexique, qui est pratiquement inconnu, alors que c'est un des plus grands peintres du XXe siècle. Et je suis persuadé que dans beaucoup de pays d'Amérique latine, il y a de grands peintres. Enfin, certains en sont devenus célèbres. Ouais, mais je crois que c'est une occupation importante pour toi aujourd'hui, ça. L'activité artistique, la défense ou l'illustration des arts et des beaux-arts.
Oui. Alors, moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est vrai que je m'intéresse beaucoup à l'art, aux arts plastiques. Je pense que jusqu'à un certain moment, on ne faisait pas trop la distinction. On pouvait très bien écrire, dessiner, et être peintre, mélanger les... On n'était pas si spécialisés que ça. Mais nous, on a quelques exemples assez marquants. Comme je parlais de Eyelson. Eyelson qui est incroyable parce que c'est un très grand artiste plastique qui est très coté en ce moment dans le monde. De plus en plus, d'ailleurs, la peinture de Eyelson est super importante. Et un extraordinaire poète. Il a écrit aussi des nouvelles. Donc c'est une espèce de personnage un peu de la Renaissance, dans un idéal un peu de maîtriser tous les langages, en fait. Donc ça, c'est très intéressant. Et c'est vrai qu'il y a plein de peintres qui sont à découvrir, un travail à faire. C'est aussi lié au patrimoine, ça, je pense. On s'occupe pas assez de faire connaître les figures de l'art. Et peut-être c'est plus compliqué ou peut-être plus facile que la littérature, je sais pas. Mais si c'est par rapport à l'Europe, que tu veux dire que s'ils sont connus en Europe ?
Je veux dire que souvent, de grands talents, de grandes œuvres même, ne sont pas très connus en Europe. Et d'artistes plus contemporains, bien sûr, Diego Rivera, etc. Mais je parle des années récentes. Je crois que je donne l'exemple de Francisco Toledo, qui est un peintre exceptionnel et un maître au Mexique. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le rapport de l'artisanat ? Parce que vous avez un artisanat, on parle toujours du Mexique, Guatemala, mais vous avez aussi un artisanat richesse incroyable, l'habileté, la dextérité.
On a vu les retables qui sont exposés à l'entrée, qui sont magnifiques. C'est extraordinaire, parce qu'on a dit beaucoup artisanat, avec un peu de mépris. Comment le mépris qu'on a avec le folklore ? Qui est complètement absurde d'opposer le grand art, les grands artistes aux artisans, parce que les artisans, ils sont aussi créatifs qu'un artiste plasticien contemporain. D'ailleurs, souvent, quand on va dans les foires d'art contemporain, on voit combien les artistes reviennent au tissage, par exemple. Ils vont aller voir comment ils reviennent à la poterie, ils refont des poteries à la manière ancienne, avec la terre qu'utilisait à l'époque précolombienne, en utilisant des formes. Et on a toujours réutilisé les formes, en fait, et revisité les choses. Et moi, j'ai du mal à... C'est sûr que l'artisanat, ce n'est pas des objets uniques. Donc, il y a le fait qu'on peut avoir plus d'objets et qu'il y a un côté marchand plus évident, peut-être. Mais le Pérou a un patrimoine et un potentiel énorme, aussi comme l'Amérique centrale, aussi comme le Mexique, de créateurs d'objets qui sont en lien. Parce qu'en fait, je pense qu'avec l'Amérique latine, si on veut comprendre l'Amérique latine, il faut se dire qu'on vit dans des temps simultanés, parallèles. Donc on vit dans un temps où on est très proche encore de ce qui était précolombien aujourd'hui, et on est dans la hyper contemporanéité aussi. Donc on a des espèces d'écarts comme ça continuels qui sont très intéressants, mais qui peuvent être aussi très déstabilisants pour les personnes. Donc on essaie de trouver, chacun essaie de trouver son ancrage dans ce monde très très compliqué. Mais moi j'adore l'artisanat. Les artistes, ils puisent énormément, et ça a beaucoup de... C'est très riche pour communiquer avec le reste du monde, parce qu'on peut, par rapport à l'identité péruvienne, on peut la transmettre, la faire connaître par ce genre d'objet, mm-hmm, plus facilement.
Les tissages d'Eyelson, notamment, sont magnifiques.
Eyelson travaille avec los quipus. Je ne sais pas si vous savez, los quipus, qui sont ces jeux de cordes avec des nœuds qu'on utilisait à l'époque Inca pour communiquer. Et on n'a pas encore réussi à toutes les déchiffrer vraiment. Et Eyelson a travaillé avec ça dans ses toiles, qui sont des toiles tridimensionnelles. Et il les appelait quipus, d'ailleurs. Et les nœuds, il a travaillé aussi avec les nœuds, le tissu. Donc c'est directement lié à notre culture précolombine, c'est sûr.
Il nous reste quelques minutes pour que tu parles de ton dernier roman publié.
mon dernier roman publié a été publié en 2017, qui s'appelle Mar Afuera. Et Mar Afuera, il n'a pas été traduit, malheureusement, mais c'est un roman qui se passe entre Paris et Lima. Et c'est le seul où je fais un peu la balance. C'est un personnage féminin qui arrive de Lima à Paris avec ses jumeaux, des enfants jeunes. Et il y a une histoire, on ne sait pas trop pourquoi elle est partie précipitamment de Lima. Et tout le roman, on découvre petit à petit pourquoi. Moi, je dirais que c'est un roman qui se passe fin des années 90, mais bon, il n'y a pas de marque temporelle. Et tout est dans le retour. Donc ce personnage, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va revenir mettre de l'ordre ou voir... Donc à un moment donné, elle revient à la fin. Et le, disons, toute sa vie s'organise à nouveau, disons. Et on comprend pourquoi elle est partie et pourquoi elle est revenue. Mais je parle beaucoup de Paris, je parle commencer d'avoir des enfants petits à Paris, la crèche. Pour elle, la crèche, ça a été vraiment l'événement le plus important de sa vie, quoi. Parce que d'un moment, elle arrive et elle peut se reposer sur quelque chose pour elle aussi se récupérer de ce qui lui est arrivé. Et donc, ça, pour moi, c'était important aussi de parler de mon expérience aussi à Paris en tant que mère. Et comment cette organisation de la vie permet de faire autre chose et de revenir à être un individu, quoi. Au moins certaines heures par journée. Mais c'est un roman qui est... C'est marrant parce que moi, j'habite dans le 17e et dans l'immeuble à côté, il y avait des travaux. Et la présence de ces travaux à côté de chez moi accompagnait tout l'écriture du roman. Et j'en parle dans le roman au début. Et quelque part, c'est cette histoire de l'immeuble qui se refait. Et dans l'immeuble, à ce moment-là, on avait eu la nouvelle d'un appartement, je ne sais pas si vous vous souvenez, un appartement qui était resté intact de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on avait redécouvert, et il y avait tout parfait, comme si les gens étaient partis la veille. Et il y avait eu un reportage à la télé. J'avais vu ça, ça m'avait beaucoup frappée. Et donc j'intègre dans le roman aussi l'histoire de la France et les blessures de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, parce que se trouve que dans le roman, en refaisant les travaux dans l'immeuble à côté, il trouve un appartement qui est resté intact et on ne sait pas pourquoi a été abandonné. Et donc le personnage ramasse un papier, il arrive à rentrer dans l'immeuble. Et c'est soi-disant une famille juive qui a abandonné en catastrophe. Et tout ça, c'est dans ce roman Mar Afuera. Donc, parce que moi, j'ai été très frappée par l'importance de la Deuxième Guerre mondiale, et que pour nous était quelque chose de très lointain. C'était vraiment un thème de film américain qui revenait en Europe en héros. Mais je n'avais pas pris la mesure. Et dans ce roman, j'en parle. Ce qui veut dire que je suis assez française aussi, quelque part.
En effet, tu le... Alors, je suis arrivé à trouver de la poésie, là, que tu pourrais nous lire, parce qu'on est pratiquement arrivé à la fin de l'heure qui nous est attribuée. Je ne sais pas si c'est assez... Tu as tes lunettes, mais ça va, alors. Ouais, j'ai les prix du début, tu peux tourner... tu veux que je te serve peut-être à boire? Ah, tu t'es servi, non?
Bon, je vais lire le premier poème, c'est tout. Très bien. Il n'est pas très long. C'est un livre qui s'appelle Adentro la batalla, que j'ai publié en 2017 aussi, et qui est un peu... comment dire, j'étais partie de l'idée du château intérieur des poètes mystiques, qui parlait de l'âme comme un château, et cette idée aussi de poète qui est dans la tour d'Ivoire. Donc il y a une première partie où on décrit le château, mais comme un espace poétique, et après il y a les extramuros, tout ce qui est autour, qui est la ville, et aussi le chaos. Donc c'est un livre qui est un peu dans la veine du grand siècle, siècle d'or espagnol. Et il y a aussi un poème que j'ai appelé Cáceres. Ah, peut-être que je vais lire celui-là. Parce que comme moi, je m'appelle Cáceres, j'ai écrit un poème sur Cáceres comme je l'imagine, parce que je n'ai jamais été. La ville de Cáceres en Espagne, à Extremadura. Et il est où? Et mon père, il a toujours voulu y aller, et il est mort, et je n'ai jamais allé à Cáceres. Donc je me promets d'y aller tous les ans, mais je vais y aller. Si, je... Merde. Je vais lire. J'espère qu'il y a des gens qui parlent espagnol. Ah oui, je ne vais pas trop
majorité,
vous embêter.
Grande majorité.
Castillos hay, ciudades muchas. Non, ça va. Castillos hay, ciudades muchas. Lima, loca y mutante. París, seria, estridente, de genio secular. Cáceres. Cáceres surge de las brumas legendarias, de los cuentos del abuelo, encerrada en sueños, pretendiendo estandartes y victorias de los que pueblan los cantares de gesta y sus antiguos castellanos, entre moros y romanos silenciosos, a la espera de gloria allende el mar. Cáceres, ciudad, que no vio a mi padre regresar, ojos brillantes, ávido de aquello que alimentó una infancia corta, súbita, acerenciada, a la ribera del río Santa, donde las aguas saltan, eléctricas y heladas, lejos, tan lejos de Castilla. Cáceres, tan solo un sueño, fortificado entre otros, torreón de la imaginación de la infancia, nombre que tintinea aún en los oídos de mis hijos, diciendo, la leyenda no termina, ni los cuentos, ni las sagas, y que los muertos sin ojos, al fondo de las tumbas repitan, con sus bocas desdentadas, un pasado lento que rompe la espada, donde el blasón andino de plumas de colores sobrevuela aquel de torre caballera, y estamos todos Cáceres en duermevela de titanes, alzando apenas la mirada, sin entender o apenas los destinos. Merci.
Je disais que si vous avez des questions, on a encore 10
oui,
minutes.
Oui, il y a un micro, c'est moi qui l'ai.
Et vous avez un micro, alors, donc pas de problème. Et tu as quelque chose à ajouter, toi ? Tu as le temps ? Bon, bah écoutez, alors, on se reverra demain matin avec Santiago Roncaiolo et demain après-midi avec Alonso Cueto, qu'on a le plaisir d'avoir avec nous cet après-midi.
Moi, je voulais remercier, bien sûr, j'ai pas remercié le festival.
Ah oui.
Et pour cette invitation, pour mettre le Pérou à l'honneur. Et c'est pour nous une grande joie, et en plus, comme ça, on se revoit Alonso qui est venu de Lima hier soir, et d'autres amis écrivains qui vont venir, et puis il y a tous les films à voir, et les cinéastes, donc c'est vraiment une belle fête, et on est très heureux d'être ici. Merci beaucoup.
Et moi, j'ai oublié quelque chose. J'ai demandé ce matin à Karine de nous dire ce qu'elle ressentait, et elle ne m'a pas bien compris d'ailleurs, elle n'a pas tout à fait répondu, lorsqu'elle voit sa photo de Daniel Mordzinski, parce que c'est aussi un hommage à Daniel Mordzinski dont j'ai parlé ce matin, je vais en parler encore, et pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, n'oubliez pas de voir ces deux magnifiques expositions des photos d'écrivains que Daniel Mordzinski fait depuis plusieurs dizaines d'années. Tu t'es vu, Grécien ?
Mais je ne suis pas dans l'expo, moi, malheureusement.
Si, c'est là à l'entrée. Ah si, si, si.
Ah, j'ai pas vu.
Tu t'es pas vu.
Bon. Mais bon, de toute façon...
Rappelle-toi d'une photo qui t'a prise.
J'ai fait une séance de photos ce matin avec lui devant le maire. Et c'est génial. Hein. Quand il prend une photo, c'est extraordinaire. C'est comme si on voyait les mécanismes dans sa tête et comment il crée l'histoire qui va faire apparaître sur la photo. Et c'est un extraordinaire photographe d'écrivain parce que c'est comme un écrivain lui-même. Hein, non, il raconte des histoires. Chaque photo, on peut imaginer une toute petite narration. C'est très narratif. Et puis, il est devenu le grand photographe des auteurs latino-américains. Donc, on ne se sent pas bien si on n'a pas été pris en photo par lui. On ne se sent pas assez bien. Donc, il faut passer par lui pour faire partie des grands et des bons écrivains latino-américains. Et c'est une grande personne en plus.
Merci.